J'aimerais vous parler un petit peu de la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils. Et notre passage de référence, ce sera dans Romains 8. Romains 8, 19, il est dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Moi, quand je lis ça, ça m'interpelle. Et c'est comme si le Saint-Esprit disait « Il est temps que les fils de Dieu soient révélés. » Et nous sommes maintenant dans le temps. Alors, pour Dieu, ce temps, certainement qu'il est ouvert depuis un bon moment. Mais il attend que nous nous y connections à ce temps-là. Et aujourd'hui, il est temps et Dieu cherche un homme, une femme, un peuple au travers duquel puissent être révélés les fils de Dieu que la création attend. Et nous sommes là comme ça, à attendre aussi. Et la création attend la révélation des fils de Dieu. Ben, on attend les uns sur les autres, mais on passe notre temps à attendre. Il ne suffit pas d'attendre. Hein? Le monde attend quelque chose et c'est nous qui avons la réponse, entre guillemets. Et on pourrait même dire que le monde nous attend. La création tout entière, avec un ardent désir. Alors si pendant quelques instants on adopte la perspective de Dieu, on peut plus dire que le monde n'est pas intéressé par l'évangile. On peut plus dire que, ouais, mais les gens veulent rien savoir de Jésus. Puisque la Bible déclare que la création tout entière soupire ardemment, ou bien attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais ce qu'ils attendent, c'est pas seulement des gens qui se proclament quelque chose. Ce qu'ils attendent, c'est pas seulement un discours. Ce qu'ils attendent, c'est la révélation. On pourrait aussi dire la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire que les fils de Dieu ou les enfants de Dieu doivent être révélés ou bien manifestés. Vous savez, quand quelque chose vous est révélé ou bien vous est manifesté, ben, ça vous apparaît évident. Je veux dire, c'est comme si ça vous frappe aux yeux, ça vous interpelle. D'accord ? Le monde n'attend pas que des gens viennent et disent « Nous sommes les enfants de Dieu, venez à l'église, soyez avec nous. » Non, le monde attend la révélation, pas la proclamation, pas la présentation, la révélation et la manifestation. Et vous savez combien j'attache d'importance à ce que la parole et l'esprit soient associés et combien j'attache d'importance à ce que la parole de Dieu soit confirmée par la puissance de Dieu. Mais là, il y a vraiment quelque chose de fort et de profond sur lequel l'esprit de Dieu attire notre attention et qu'il désire que nous manifestions, ou bien que nous comprenions pour entrer dans la réalisation. Et pendant quelques semaines, on a parlé de certains principes du royaume de Dieu, on a parlé de principes de développement à partir de l'exemple de Christ, qui sont en fait des choses visibles pour le monde. Puisque lorsque vous appliquez la parole de Dieu, ben les gens le voient. Quand vous êtes honnête, les gens peuvent voir que vous êtes honnête. Quand vous êtes dans la vérité, les gens peuvent voir que vous êtes dans la vérité. Mais ça, tout seul, ça ne suffit pas. Même si nous adoptons la mentalité du royaume de Dieu, ce qui est une chose à faire, et c'est totalement excellent, mais même la mentalité seule ne suffit pas. Notre vie, notre témoignage, notre ministère, si on peut dire, doit être recouvert de la gloire de Dieu. En fait, la manifestation ou la révélation des fils de Dieu, c'est la manifestation ou la révélation de la gloire de Dieu sur ses enfants. Et c'est juste la petite chose qui manque, très souvent. Mais dans laquelle Dieu nous attire, Dieu nous appelle. Hein? Et vous savez, l'une des choses que Jésus dira dans Jean chapitre 4 au verset 23, on va regarder ça s'il vous plaît. Jean 4, 23. Là, on a vu que la création attend la révélation des fils de Dieu. Mais Dieu aussi attend quelque chose ou Dieu cherche quelque chose. Et Jean 4, chapitre 23 nous dit « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, ou bien que le Père recherche. » Donc Dieu recherche quelque chose. Il recherche des adorateurs. Alors c'est quoi le rapport dans tout ça? Ne vous inquiétez pas, on y vient. Vous savez, l'adoration, ça veut dire contempler Dieu. L'adoration, c'est pas prier. C'est une forme de prière, mais c'est pas prier au sens où je demande quelque chose à Dieu. L'adoration, c'est je contemple Dieu. Je dis qui il est, je dis comment il est. Je le contemple, je proclame sa gloire, sa grandeur, sa majesté. L'adoration, c'est élever Dieu dans notre vie. C'est vrai que même toute notre vie devrait être marqué par un style de vie d'adoration, en fait. Et si bien que lorsque j'applique les principes de la parole de Dieu, ou bien lorsque je respecte les enseignements de la Bible, les valeurs qui en ressortent et les principes qui y sont communiqués, eh bien c'est une forme d'adoration. C'est-à-dire que dans ma vie, ma vie, mes actions, mes actes que je fais, eh bien c'est une forme d'adoration. C'est des choses qu'on peut palper, qui sont sensibles. Mais il y a aussi l'adoration en esprit, qui est le fait d'élever notre esprit vers Dieu, qui est le fait de proclamer la grandeur de Dieu, de reconnaître sa majesté, sa magnificence. Donc ça, c'est ce que le Père recherche. Alors, on va faire un petit saut dans 2 Corinthiens 3, 18, et ça va un petit peu éclaircir l'idée que je suis en train de vous présenter. Et 2 Corinthiens 3, 18, il est dit là, « Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. » Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. En fait, il est dit là que nos visages reflètent la gloire du Seigneur. Et je vous rappelle, je crois l'avoir déjà dit, que tout simplement pour refléter quelque chose, il faut être en face de la chose. D'accord ? Pour qu'un miroir vous donne le reflet de votre visage, il faut que vous soyez devant le miroir. Et pour pouvoir refléter la gloire du Seigneur et être transformé en la même image de gloire en gloire, donc il y a un processus, mais nous devons demeurer devant le Seigneur ou bien dans la présence du Seigneur. Et il y a là aussi une notion d'adoration. C'est-à-dire, plus nous adorons, donc nous sommes devant Dieu. Je vous rappelle que Christ a inauguré par son sang une route nouvelle et vivante vers le Père. Donc quand nous adorons, nous venons devant le trône de Dieu, le Père, en esprit, dans le ciel, on est là, on adore Dieu. Et pendant qu'on l'adore, on commence à le refléter. Mais en même temps qu'il y a une forme d'expérience spirituelle, puisque ce n'est pas notre corps qui est dans les lieux célestes, c'est notre esprit, mais en même temps, il est dit que notre visage reflète la gloire du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une dimension supérieure que de juste dire que j'ai vécu quelque chose en esprit, que j'ai juste adoré en esprit, ou bien que j'ai été béni en esprit, ou bien que je suis en bonne santé en esprit pendant que mon corps est complètement en train de se détruire, ou bien que je me sens bien en esprit pendant qu'en réalité je me sens mal, ou bien que j'aime Dieu en esprit pendant qu'en réalité je ne fais rien de ce qui honore Dieu. Alors quand on est parfois peut-être dans une réunion et qu'il peut y avoir une interpellation de Dieu et te demander de faire quelque chose, tu vas rester cloué comme ça sur ton banc et tu vas dire « en esprit je réponds à l'appel ». Bah oui, mais à un moment il n'y a pas que l'esprit. Et de la même manière que, bien sûr, Dieu nous sauve dans notre esprit, Dieu manifeste sa gloire et sa puissance dans notre esprit, ça doit amener aussi une manifestation ou la réalisation de certaines choses dans notre corps et dans notre vie. Et c'est ce que le monde attend, la révélation des fils de Dieu. Et savez-vous comment on a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu? À un moment donné, la Bible rend un témoignage. Oui, donc on a le témoignage de Dieu à son Fils. Effectivement, mais après, à un moment donné, les disciples aussi, ou bien les apôtres si vous voulez, vont dire quelque chose au sujet de Jésus. Et quelque chose de très remarquable. Ouais, il y a eu plusieurs périodes, plusieurs épisodes où en fait ils ont reconnu, parce que par exemple, sur le chemin, quand Jésus leur parlait, ils disaient « Mais notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous quand il nous parlait ?» Il y a quelque chose qui se communiquait. Hein, et ce quelque chose... en fait, qui faisait que les gens ressentaient quelque chose. C'est quelque chose qui faisait que quand Jésus passait à côté des gens, les gens pouvaient être touchés par la puissance de Dieu. C'est quelque chose qui faisait que les quelques pains et poissons du petit garçon ont pu nourrir 5000 hommes sans qu'on fasse de grands, je ne sais pas trop quoi. C'est quelque chose, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et la parole de Dieu en rend témoignage et dit que, dans Jean chapitre 1er, verset 14, que la parole a été faite chair, donc en Jésus, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Christ était caractérisé par la gloire. Donc là, si on fait un petit peu un rapprochement des différents versets qu'on vient de regarder, on voit que Dieu cherche des adorateurs. Et que lorsque nous adorons, nous reflétons ce que nous contemplons, en fait. Nous reflétons la gloire de Dieu dans ce monde. Et c'est exactement ce que la création attend. Elle attend la révélation des fils de Dieu, d'hommes et de femmes qui sont couverts de la gloire de Dieu. Et quand nous avons la gloire de Dieu dans notre vie, ça change complètement les choses. Ça change complètement. Et j'aimerais vous montrer trois aspects aujourd'hui de la gloire de Dieu dans notre vie et de sa manifestation. Et le premier aspect ou la première chose, c'est un reflet. un reflet. Hein, on vient de lire 2 Corinthiens 3, 18, où il est dit « Nous qui reflétons sa gloire ». Donc il y a un reflet sur nous. Et je suis en train d'aller dans des choses un peu profondes, hein. Vous allez voir, ça a l'air tout gentil comme ça, mais... Je ne suis pas juste en train de dire qu'on a bonne mine, que c'est bien. Je suis en train de dire que la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un va amener à un moment donné un reflet sur le visage de cette personne. Et un reflet qui n'est pas juste un truc théorique, qui est quelque chose de réel. Vous savez, moi, ça change mon regard sur les Écritures. C'est quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». On n'est pas juste la lumière. Oui, on est la lumière par nos comportements, par nos bonnes actions, par nos bonnes paroles, mais on est la lumière du monde parce que sur notre visage, il y a une lumière. Et quand Jésus dit « Celui qui croit en moi, il aura la lumière de la vie et il ne marchera plus dans les ténèbres », c'est parce qu'on a en nous sa gloire qui en fait est une lumière et qui éclaire. Si bien que même dans les ténèbres, on voit parce qu'il y a sa lumière qui éclaire. C'est vrai en esprit, mais c'est vrai aussi en vérité. Et l'heure vient, et elle est déjà venue. Comme disait Jésus, où les vrais adorateurs adoreront. Et quand les vrais adorateurs adoreront, les vrais adorateurs commenceront à refléter la gloire de Dieu qu'ils adorent, et ces vrais adorateurs-là commenceront à poser les mêmes actes, à amener la même puissance que leur exemple, Jésus-Christ, et le monde pourra voir sur eux la gloire de Dieu ou le rayonnement de Dieu. Donc il y a un reflet. Je vais vous montrer plusieurs passages des Écritures qui parlent de ce reflet. On a par exemple le cas de Moïse dans l'Ancien Testament. Si vous avez un minimum de culture biblique, ou même si vous regardez des vidéos ou des DVD sur la Bible, on met toujours ça en avant à un moment donné. Quand Moïse descend de la montagne, il nous a dit qu'il avait un reflet sur lui, qu'il était brillant. Et ça, c'était physique, puisque les gens l'ont vu. Et les gens qui l'ont vu n'étaient pas spécialement spirituels, puisqu'ils étaient même en train d'adorer des idoles. Ils avaient fait un veau d'or parce qu'ils trouvaient que ça prenait un peu trop de temps, le temps que Dieu parle à leur patriarche. Donc ils étaient en train de faire une idolâtrie, mais quand même ça, ils ont reconnu la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Donc c'était quelque chose de visible, et pas de réservé à des initiés spirituels. Des fois, on dit oui, c'est quand on est... Quand on est bien spirituel, qu'on peut voir ou sentir les choses. Laisse-moi te dire que plus la gloire de Dieu va commencer à s'installer et se manifester dans nos vies, et plus les gens pas spirituels vont commencer à voir des choses. Aujourd'hui, peut-être qu'entre frères et sœurs, on reconnaît, on se sent bien parce qu'il y a une paix de Dieu, on reconnaît que le Saint-Esprit est en nous, mais le temps est venu, où même des gens qui ne sont pas du tout spirituels, qui ne sont pas au Seigneur, devraient commencer à voir sur nous le reflet de la gloire de Dieu. Et ça devrait les interpeller. Alors, Moïse, on peut lire ça dans Exode 34, 29 par exemple. Exode 34, 29. Il est dit « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. » Donc on voit que ce n'est pas juste un rayonnement parce qu'il s'était bien reposé ou parce qu'il se sentait bien. Non, la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. C'est-à-dire que lorsque nous parlons avec l'Éternel ou que nous sommes dans sa présence, à un moment, il y a un reflet qui vient sur nos visages parce que nous venons d'être dans la présence de Dieu. Un reflet, quelque chose de visible. Lui, il ne savait pas, mais les autres l'ont vu. Ça les a impressionnés. Et ça, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Plus tard, dans Josué, au chapitre 2, on a également un témoignage au sujet du reflet qui était sur des serviteurs de Dieu. Et je vous laisse remarquer en cours de route qu'on est encore dans l'Ancien Testament, là. Et aujourd'hui, on a une alliance encore meilleure. Josué 2, on va prendre le verset 11. En fait, c'est à un moment donné, les serviteurs de Dieu, avec Josué et quelques espions, sont allés pour explorer un endroit. Et ils arrivent chez une Rahab qui va les accueillir. Et elle va dire au verset 11, en fait nous avons appris ce que Dieu a fait pour vous, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à quoi ? À votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Pourquoi est-ce que les gens étaient découragés à leur aspect ? C'est quoi l'aspect ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi l'aspect ? Ce qu'on reflète, oui, c'est même tout simplement l'apparence, en fait. Hein, à votre aspect, l'aspect de quelque chose. Alors, et les gens ont eu peur à l'aspect des gens. Pourquoi ? Ouais, peut-être, mais c'est plus l'attitude, mais à leur aspect. Et notre attitude, on parle d'attitude d'être sûr de soi, ça s'appelle l'attitude, mais leur aspect, c'est simplement ce qu'ils reflètent. Pourquoi est-ce que les gens étaient découragés à leur aspect ? parce qu'il reflétait quelque chose. Et ce qu'il reflétait, c'était la gloire de Dieu. Si bien que les gens ont perdu courage juste en les voyant. Ils n'ont même pas eu besoin de sortir leurs boucliers, leurs épées, leurs trucs. Ils n'ont pas besoin de dire « Attention, nous, on est les enfants de Dieu ». Non, bien sûr, les gens avaient entendu ce qui s'était passé, mais quand ils les ont vus, ils ont été déconcertés. Ils n'ont plus voulu les attaquer, ils n'ont plus voulu résister parce qu'ils ont dit « Mais waouh, il y a quelque chose sur eux ». Et ça va même les amener. Et je vous rappelle que les gens là, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Hein. Ceux qui parlent, qui disent « Nous l'avons appris, nous avons perdu courage ». Et ils vont être amenés à dire « L'Éternel est Dieu dans le ciel et sur la terre ». Juste en les voyant, parce qu'ils reflétaient quelque chose. Et je vais vous montrer un petit truc au chapitre 4 et au verset 11. Josué toujours. Josué 4, 11. Il est dit là que lorsque tout le peuple eut achevé de passer devant l'arche de l'Éternel, les sacrificateurs et l'arche de l'Éternel passèrent devant le peuple. Et en fait, si je vous montre ça, c'est parce que plusieurs fois dans l'Écriture, on voit que l'arche de l'Éternel, c'est cette arche d'alliance qui représentait la présence de Dieu parmi son peuple, mais on voit que le peuple passait devant l'arche. Ça peut être une image aussi de l'adoration. Ils étaient devant l'arche et il nous est dit aussi plusieurs fois dans l'Écriture que cette arche, il fallait pas y toucher, elle était mise dans des endroits particuliers, elle était protégée dans le tabernacle, elle était dans l'endroit le plus intérieur où on pouvait pas aller. Lorsqu'on la transportait, il y avait une manière de la transporter. Il y a même des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils y ont touché alors qu'ils n'étaient pas autorisés. Enfin, donc c'est quelque chose de puissant, ça représentait Dieu parmi son peuple. Parce que je vous rappelle qu'on est toujours dans l'Ancien Testament et que Dieu n'habitait pas dans les personnes, mais que Dieu habitait parmi son peuple et notamment à travers des choses comme l'arche, qui représentait sa présence. Et à chaque fois, il y avait une importance cruciale qui était attachée à l'arche de l'Éternel. En fait, l'arche, on pourrait dire un coffret. Hein. Vous avez peut-être déjà vu des images, c'était comme un coffre. Et Dieu avait donné des ordres sur la manière dont ça devait être fait. Et ça représentait Dieu lui-même. Et si bien qu'à une certaine époque de l'histoire d'Israël, le peuple avait été mis en défaite, ils avaient été pillés, et l'arche avait été amenée auprès d'un autre peuple. Et d'ailleurs, l'arche elle-même, et ça m'a toujours impressionné, elle avait été déposée auprès d'une autre idole, et la Bible déclare que l'idole a été littéralement détruite par l'arche de l'Éternel. Impressionnant, hein? Comment un coffret peut avoir une puissance? Mais parce qu'en fait, ce n'était pas juste un coffret, c'était la manifestation de la présence de Dieu parmi son peuple. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, l'arche de l'Éternel, elle est ici. Elle est dans mon cœur, elle est dans ton cœur. Nous sommes, vous êtes une arche de l'Éternel. Parce qu'il a choisi d'habiter en vous et de faire venir sa plénitude en vous. Donc l'arche de l'Éternel est en nous. Donc il y a une action, il y a quelque chose, il y a un reflet. Donc ça c'était juste en passant. Et plus tard, Jésus aussi va refléter quelque chose. On vient de le lire dans Jean chapitre 1er verset 14 où il est dit qu'ils ont contemplé sa gloire. Contempler, il y a une notion de regard, ils ont vu quelque chose. Donc il y avait un reflet de la gloire de Dieu sur Jésus. Et plus tard aussi, parce que vous allez me dire, c'est peut-être pas dans le Nouveau Testament, mais là on va être bien dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 5, acte 5. Acte 5, on va prendre au verset 14. Donc là, dans le livre des Actes, on est d'accord, l'Ancien Testament c'est terminé, Jésus a accompli son œuvre, c'est fait. Maintenant, on est exactement dans l'époque de ce qu'on peut appeler l'Église, puisque les Actes, c'est le commencement de l'Église. Et il est dit là, Acte 5, on va prendre le verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre, au moins, en couvre quelques-uns. Qu'est-ce que ça vous suscite, ça? Son ombre. Amen, c'est ça, la puissance de Dieu en fait, la force agissante en lui, eh bien, va créer une ombre qui va. Vous savez, pour qu'il y ait une ombre, il faut une lumière. Et je vous rappelle qu'on peut comprendre que Dieu nous ayant donné sa lumière, en fait, c'est la gloire de Dieu qui est comme une lumière. Et si bien que l'ombre de Pierre va guérir les malades. Et là, quand ils disent l'ombre, on pourrait dire soit le reflet de Pierre, ou soit le rayonnement de Pierre, ou soit l'influence de Pierre. Et si c'est vrai pour Pierre, bien aimé, c'est vrai pour vous et pour moi. Parce qu'on a le même Seigneur, on a la même foi, on a la même parole de Dieu, on a le même Saint-Esprit, on a la même puissance à notre disposition. Donc si l'ombre de Pierre pouvait même guérir des malades, alors on peut toujours imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement de Jésus, c'est très bien. Ça, c'est la foi. Après, on peut des fois voir des gens guéris instantanément. C'est très bien, c'est l'onction de Dieu. Mais là, il y a encore quelque chose de fort et de profond qui est plus que juste d'avoir la foi ou plus que juste vivre dans l'onction du Saint-Esprit, mais qui est la gloire de Dieu manifestée dans notre vie. Et laisse-moi te dire que si quand tu vis dans la foi, tu peux prier, demander des choses et Dieu va répondre parce qu'il honore sa parole et ta foi, mais quand tu développes ta foi pour vivre dans le domaine de la gloire de Dieu, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu pour être inondé, rempli et transformé par sa gloire, tu n'auras même plus à demander des miracles parce que la gloire de Dieu en toi va produire des miracles. Et l'histoire ne le dit pas, mais j'aime à penser que Pierre ne s'est pas tellement posé la question « Est-ce que je vais guérir des gens à côté de moi ?» Mais les gens se sont rendus compte que quand Pierre passait quelque part, il y avait une puissance qui se dégageait, les gens étaient guéris, et donc eux-mêmes sont venus apporter les malades le long du chemin pour que l'ombre de Pierre les touche. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Je trouve qu'il y a une différence entre avoir des malades qui ont besoin de quelque chose, dire « Bon, je viens, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. » Ça fonctionne très bien et je le pratique moi-même. C'est la parole de Dieu. Mais il y a une autre dimension qui est de développer la conscience de la gloire de Dieu en nous à tel point que cette gloire de Dieu va elle-même agir le reflet, le rayonnement. Donc, il y a une pensée de Dieu, il y a un message, un désir de Dieu pour que ses filles, ses enfants aient sur eux ce reflet ou ce rayonnement. C'est pas mal, hein? Merci Seigneur. Et le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et l'une des manières dont les fils de Dieu sont révélés, c'est par ce qu'ils reflètent, par leur rayonnement. Une autre chose qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est une notion d'écho ou bien de voix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, enveloppe notre voix ou nos paroles. Vous allez voir, on va regarder ça. On va regarder trois passages. Le premier, c'est dans Ézéchiel 43. Ézéchiel 43. On va prendre les versets 1 et 2. Vous voyez, je vous ai montré que Dieu cherche des adorateurs. Qu'en adorant, on va le refléter. On va avoir un reflet, mais aussi il y a quelque chose qui va commencer à marquer notre voix et nos paroles. On ne va plus juste parler comme ça. Il y a quelque chose qui va se poser sur notre voix ou sur nos paroles. Ézéchiel 43, versets 1 et 2. Donc Ézéchiel a là des visions, notamment une vision pour le temple, mais il dit « Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. » Maintenant, rappelez-vous de ça et allons dans Apocalypse, au chapitre 1er. Apocalypse 1er, 14 et 15. Donc là, c'est Jean qui va avoir une vision de Jésus. Et il dit là, Apocalypse 1er, 14 et 15, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. » Donc, tout à l'heure, on avait une description de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même, le Père, l'Éternel, dont la voix était pareille aux grandes eaux. Là, on a une description de Christ, le Fils. Et il nous a dit aussi que sa voix était pareille à de grandes eaux. Donc il y a le Père qui est comme ça, le Fils qui est comme ça. Et maintenant, il y a encore quelque chose. Apocalypse 14, au verset 2. Alléluia. Merci Jésus. Apocalypse 14, au verset 2. Là, il est question des rachetés qui sont en train de louer ou adorer l'Éternel. Et il est dit là, Apocalypse 14, verset 2, « J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. » Et là, je ne vais pas expliquer grand-chose, je veux juste souligner qu'on a encore une fois ce son semblable à de grandes eaux. Et là, il est question des rachetés, c'est-à-dire de l'Église de Jésus-Christ, en fait, de ceux qui ont vaincu, de ceux qui ont marché avec Dieu jusqu'à la fin et qui sont maintenant devant son trône pour l'adorer. Donc remarquez qu'on a premièrement le Père, ou bien Dieu lui-même, l'Éternel, dont la voix est comme les grandes eaux. Ensuite, on a le Fils, dont la voix est comme les grandes eaux. Et maintenant, on a l'Église, dont la voix est comme les grandes eaux. Alors bien sûr qu'il y a une notion de volume peut-être ou de voix puissante, mais plus que ça, il y a aussi une notion de quelque chose qui recouvre la voix. Vous savez, quand Dieu parle, il se passe toujours quelque chose. Si vous lisez depuis la création, hein, Dieu dit, la chose arrive. Si vous regardez le ministère de Jésus, Jésus parle, la chose arrive. Jésus ordonne qu'un malade soit guéri, le malade guérit. Jésus ordonne qu'un figuier soit sec, le figuier est sec. Jésus ordonne, les choses arrivent. Plus tard dans les évangiles aussi et dans les actes des apôtres, on voit encore une fois par exemple Pierre et Jean qui vont ordonner à un paralytique au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui se passe? Le paralytique se lève et il marche. Donc, Dieu le Père, Jésus le Fils, mais nous aussi les fils de Dieu, nous devrions être marqué par quelque chose qui recouvre notre voix ou nos paroles. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, il y a une teneur sur ce que nous disons. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Quand nous parlons, nous libérons quelque chose. Et si c'est vrai comme un principe général, c'est à savoir que nos paroles ont un impact et une puissance, mais quand nous commençons à prendre conscience de la puissance de la gloire de Dieu et de comment cette gloire nous habite, comment elle est en nous et de comment nous sommes appelés à fonctionner, à coopérer avec Dieu, si on peut dire, en faisant ce que nous voyons faire au Père, eh bien notre voix va aussi commencer à être recouverte de quelque chose de la puissance de la gloire de Dieu qui fait qu'il y a des effets beaucoup plus immédiats et souvent beaucoup plus puissants, qui fait qu'il y a une autorité quand vous parlez, qui fait qu'il y a un impact quand vous parlez. C'est pas juste quelqu'un qui vous entend. Hein, souvent on entend beaucoup de paroles, les gens parlent, mais c'est pas toutes les paroles qui nous touchent. Mais quand nous marchons avec le Seigneur et quand nous vivons et développons cette habitude d'adoration jusqu'à être remplis et transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, eh bien, de plus en plus, lorsque nous parlons, il y a un impact qui se fait parce qu'il y a une puissance sur notre voix. Je précise quand même que c'est lorsque nous parlons de la part de Dieu. Lorsque nous parlons la parole de Dieu, lorsque nous parlons ce que Dieu nous dit, lorsque nous déclarons des choses, pas lorsque nous disons n'importe quoi. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose sur la voix aussi, qui correspond à la gloire de Dieu. Une autre manifestation des fils de Dieu, ou de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est aussi l'atmosphère autour de nous. J'ai parlé du reflet, mais aussi la notion d'atmosphère, c'est encore un peu différent. Je vais vous montrer. Et l'une des manières dont ça nous est représenté dans la parole, c'est souvent par ce qu'on appelle une nuée. Hein? Je rappelle que pendant que le peuple marchait dans le désert, ils étaient conduits le jour par une nuée, qu'on pourrait dire par un nuage, et la nuit par une colonne de feu. Hein? Donc ça, c'était ce qui les conduisait. Mais cette nuée aussi va amener une forme d'atmosphère. Il y a quelque chose qui s'installe dans l'atmosphère, dans l'air qu'on respire. On ressent quelque chose. Hein? Il y a une présence, si on peut dire, il y a quelque chose de palpable. Et on peut regarder ensemble dans Exode 24, on va lire verset 16. « La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. » Et Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc là, on voit que l'une des manifestations, bien des images, hein, de la présence de la gloire de Dieu, c'est une nuée. Et c'est aussi quelque chose de visible. Vous savez, on peut voir la nuée de la gloire de Dieu, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Et moi, ça m'est arrivé de le voir. Et c'est extraordinaire. Vous savez, des fois, on est dans la présence de Dieu, on est dans l'adoration, et je pense, vous comme moi, que vous remarquez que souvent, plus on reste là dans cette présence, plus on prend le temps et on avance, on sent comme une progression. Et on sent qu'à un moment, il y a quelque chose, on peut sentir parfois une présence, on sent une présence de Dieu, on sent quelque chose. Mais vous savez, tu vois qu'il ne faut pas juste qu'on s'arrête quand on a senti un petit chatouillement de ce qu'on a parfois appelé l'onction. Mais quand nous continuons, que nous laissons emporter dans un flot de louanges et d'adoration, à un moment ça devient de plus en plus pesant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais c'est une vérité. Et d'ailleurs, vous pouvez vous le noter dans un coin, relisez Ézéchiel 47, qui nous parle du fleuve de Dieu, du fleuve de gloire, et qui montre qu'il y a une progression. D'abord jusqu'aux chevilles, il y a de l'eau jusqu'aux chevilles, ensuite jusqu'aux genoux, ensuite jusqu'à la taille, et finalement c'est un torrent dans lequel il faut nager. Et de la même manière, Dieu nous invite à progresser avec lui, et plus nous entrons dans les réalités de la puissance manifestée de Dieu, et plus nous allons la voir à l'œuvre dans notre vie. Et donc il y a une atmosphère qui s'installe, une gloire de Dieu. Parfois on le sent même dans l'air qui nous entoure. C'est pas pour vous, mais moi j'ai vécu des moments où ça faisait un peu bizarre. C'est comme si on pouvait toucher quelque chose, comme si tu es, je sais pas, dans du coton ou quelque chose. On peut toucher, on peut sentir. C'est la nuée de la gloire de Dieu qui vient, qui se manifeste. Alors, la nuée, on pourrait peut-être utiliser une autre image, mais c'est celle que Dieu utilise. Et il y a quelque chose, comme un nuage, comme un brouillard, en fait, qui se met. Oui, mais ça peut être une révélation de la gloire de Dieu. C'est comme une nuée, un brouillard, quelque chose. Des fois, on sent, je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose, même parfois, de scintillant dans l'air. On voit pas juste comme ça, il y a quelque chose. Et prions Dieu, osons le faire, parce que c'est notre héritage, pour que Dieu ouvre nos yeux sur ces réalités spirituelles. Bien sûr qu'on va pas rechercher ces choses juste pour les rechercher comme une manifestation, mais on va rechercher la face de Dieu, on va rechercher la présence de Dieu, et quand vous cherchez Dieu, eh bien Dieu se manifeste, et Dieu vient manifester ces choses-là, et vous allez voir des choses. Vous savez, un moment dans l'Apocalypse, il est dit « Achète de moi un collier pour tes yeux ». Et Dieu désire que nous puissions obtenir auprès de lui un collier pour nos yeux, c'est-à-dire entre guillemets un produit, mais pour que nous puissions voir les réalités, nous puissions voir la puissance de Dieu à l'œuvre. En tout cas, il y a une atmosphère. Avec cette image de la nuée, c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans l'air. On peut aussi regarder dans Exode 40, verset 34, on a de nouveau cette image, où il est dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation » et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait pas entrer parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait du tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Donc on voit que ça, c'est un signe de la présence de Dieu. Et si bien que même Moïse ne pouvait pas tenir dans cette présence. Et le peuple suivait ce que Dieu faisait à travers cette manifestation de sa présence. Que Dieu ouvre à nouveau nos yeux, que nous puissions voir la nuée et bouger quand la nuée bouge et ne pas bouger quand elle ne bouge pas. Ça nous parle aussi d'être conduit par l'Esprit de Dieu, à suivre ce que Dieu est en train de faire. Parce que des fois, on reste à faire une chose et Dieu est déjà passé à autre chose. Et c'est dommage. Et il est bon d'apprendre, mais pour ça, il faut savoir que ces choses-là existent, ce sont des réalités, qu'elles nous concernent, pour que nous puissions désirer être dans ce que Dieu fait, suivre la nuée, bouger quand Dieu bouge. Parce que si vous ne le saviez pas, Dieu n'est pas statique, Dieu bouge, Dieu agit, Dieu est à l'œuvre. Et nous avons besoin d'apprendre à agir avec lui, être à l'œuvre avec lui, pour faire que cette atmosphère soit en permanence avec nous. Parce que souvent nous touchons un petit peu à l'atmosphère céleste ou à l'atmosphère de gloire à certains moments, mais la pensée de Dieu pour nous est l'idéal, ce serait que cette atmosphère soit notre quotidien. Mais là, c'est à nous d'apprendre tout simplement à nourrir les éléments qui font que cette atmosphère s'établit et aussi agit dans nos vies. Un autre passage toujours au sujet de l'atmosphère ou de la nuée, c'est dans 1 Roi 8, au verset 10. 1 Roi 8, verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc là encore, on voit cette même image de la nuée, de la gloire de Dieu qui remplissait la maison de Dieu. Maintenant, la seule remarque ou la seule différence qu'on peut faire, c'est que plusieurs fois, il nous a dit que Moïse ne pouvait pas y rester, les sacrificateurs ne pouvaient pas y rester. C'est parce que je vous rappelle qu'on est encore sous l'ancienne alliance. Mais que maintenant, par Christ, nous pouvons demeurer dans cette gloire. Puisqu'il est écrit que par son sang à la croix, une route nouvelle et vivante a été inaugurée. Il est écrit que nous sommes rendus parfaitement justes par l'œuvre de Christ. Donc maintenant, nous pouvons non seulement voir ou contempler cette gloire, mais nous pouvons vivre dans la gloire révélée de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qu'on va regarder. Dans l'Ancien Testament, c'était une chose extérieure qu'il regardait, qu'il suivait, mais dans notre époque, dans notre alliance avec Dieu, c'est quelque chose maintenant dans lequel nous pouvons pleinement vivre. C'est quelque chose que nous pouvons expérimenter, pas seulement regarder ou bien espérer, mais nous pouvons le vivre. Ensuite, Ésaïe chapitre 6. Je vais vous montrer plusieurs passages pour que ça puisse être bien clair pour vous, pouvoir savoir qu'on est dans quelque chose qui correspond à la pensée, la volonté de Dieu, et puis pour se porter vers la réalisation. Donc Ésaïe chapitre 6, on a le récit d'une vision d'Ésaïe. Il nous est dit « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. » Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Vous remarquez, il y a une dimension d'adoration. Il se prosterne devant Dieu et il déclare sa sainteté. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. La fumée, c'est pareil que la nuée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Cela a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. » Donc là, on voit Ésaïe qui est devant une vision impressionnante où, en fait, il voit tout simplement le trône de Dieu, où il y a une scène d'adoration. Donc les anges, les séraphins, c'est une catégorie d'anges qui sont en train d'adorer Dieu, de dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel » et ils disent « Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Les portes sont ébranlées par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Là, on retrouve les deux aspects que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose dans la voix, quand vous adorez, quand vous proclamez des choses de la part de Dieu, les fondements sont ébranlés, ça bouge. Et la maison se remplit de fumée, la gloire de Dieu vient. Et vous savez, quand nous proclamons, quand nous déclarons, quand nous appelons la gloire de Dieu dans notre vie ou dans nos rencontres, de plus en plus la gloire de Dieu va commencer à être manifestée. De plus en plus les choses vont commencer à bouger et de plus en plus cette nuée va être pesante parce que nous l'appelons, parce que nous déclarons qui il est et nous créons un contexte pour la manifestation de sa gloire. Sa gloire, on peut dire, c'est sa présence agissante, c'est son propre rayonnement, c'est sa propre nature, c'est sa puissance tout entière. Plus tard, dans Jean 12, 41, il est rendu témoignage d'Ésaïe en disant que Ésaïe avait vu la gloire de l'Éternel. Donc c'est pas juste une fumée ou une vision comme ça. Ésaïe a été devant une vision de la gloire de Dieu. Donc on voit dans tous ces passages que la gloire de Dieu, eh bien, il y a une atmosphère, il y a une nuée, il y a quelque chose. Et la manifestation ou bien la révélation des fils de Dieu passe aussi par le fait qu'ils sont caractérisés ou qu'ils sont entourés d'une atmosphère particulière. Même dans une église ou une réunion, quand on entre, que ce soit pas juste comme si on entre dans une salle d'attente quelconque, mais que lorsqu'on entre, il y a une atmosphère, il y a quelque chose qu'on peut ressentir qui est palpable, ce quelque chose, c'est la présence de la gloire de Dieu. Quand nous avons ces choses-là dans nos vies de plus en plus actives, ben, je peux vous dire que les miracles vont devenir de plus en plus courants. Je peux vous dire qu'on va revenir à de sérieux miracles. Et qu'on va commencer à avoir des guérisons. Gloire à Dieu pour les guérisons des rhumes et des torticolis et tout ça. Mais on va commencer à avoir des miracles sérieux. Très sérieux. Vous savez, pardon à ceux qui peut-être seront choqués, mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui meurent du cancer dans la maison de Dieu. Il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient dans des situations impossibles dans la maison de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que pendant des années, voire des siècles, l'Église... Le peuple de Dieu a été tenu éloigné de ce qui fait la puissance du message de Christ, de ce qui fait la puissance du fait d'être enfant de Dieu, et ce quelque chose, c'est d'être participant à la gloire de Dieu. Je vous rappelle que la Bible déclare que nous sommes participants à la nature divine. Or, plus la nature divine agit en toi, et moins la nature physique, moins la nature charnelle agit en toi. Plus la nature divine agit en toi, et moins la nature de destruction agit en toi. D'accord ? La nature de Dieu. Et plus nous établissons un contexte pour la manifestation de la nature de Dieu, et plus cette nature va être réelle dans notre vie. Et ça aussi, c'est une marque de la réalisation ou de la révélation des fils de Dieu. C'est qu'ils ont une autre nature. Une autre nature. Et je ne jette pas la pierre à des gens qui peuvent être malades, mais je leur dis, cherchez ardemment la parole de Dieu, commencez à passer du temps dans la présence de Dieu, commencez à déclarer, à proclamer la gloire de Dieu sur vous, et je peux vous assurer que dans quelques jours ou quelques semaines, vous ne serez plus la même personne, et ce qui en vous est en train de se détruire va commencer à se renouveler. Et j'ai un ami serviteur de Dieu avec qui j'ai partagé quelques mots pendant mon séjour en métropole, et qui me disait que dernièrement il était voir son médecin avec une prise de sang, et son médecin lui a dit « Je n'ai jamais vu une aussi bonne prise de sang ». Et cet homme-là, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude. Lui, il utilise l'image, il dit « Chaque matin, il s'habille, il se revêt de la gloire de Dieu. Il fait très bien. Il proclame la nature de Dieu agissant en lui. Il proclame la gloire de Dieu agissant sur lui. » Et c'est pas un jeune homme, hein. Il est en pleine forme. Et laisse-moi te dire que si nous développons cette habitude de rendre le terrain favorable à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, ça va aussi se manifester à l'extérieur. Et on va commencer à avoir des choses qu'on n'aurait pas eu autrement, mais qui vont refléter la gloire de Dieu. Et quand vous voyez ça, vous avez juste envie de glorifier Dieu. Et moi, je veux vraiment vous encourager à faire ça. à vraiment chercher à passer du temps dans la présence de Dieu, il cherche des adorateurs. Et pendant que vous êtes dans cette présence, vous commencez à refléter sa gloire. Après, vous pouvez commencer à parler, à proclamer aussi, à dire, mais j'ai la nature de Dieu, bien la gloire de Dieu est dans mon esprit, et je proclame que la gloire de Dieu se manifeste, je proclame que la gloire de Dieu se révèle. Vous pouvez faire des choses comme ça pour entrer dans la réalisation de cette parole de Dieu, que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alors soyons ceux et celles par qui le monde va commencer à voir la révélation des fils de Dieu. Vous savez, c'est quand on va commencer à avoir ce reflet sur nos visages, quand on va commencer à avoir des paroles qui ont un impact, quand on va commencer à créer une atmosphère autour de nous, que les gens vont reconnaître peut-être qui nous sommes, que les gens vont chercher à avoir ce que nous avons. Parce que la gloire de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus précieux. Et je peux vous dire que quand vous développez ça et quand vous amenez la gloire de Dieu à se manifester, eh bien, tout le reste, ça vient avec. Ça vient avec, comme tout à l'heure. Il y a des miracles qui se produisent. Il y a la provision qui vient. Il y a toutes sortes de choses qui se réalisent parce que c'est contenu dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand même, pour finir, je vais vous donner trois passages pour vous montrer que c'est pour nous. Dans Jean 17, où Jésus prie, et Jean 17, 22, il dit, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc là, Jésus dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Donc la gloire qui était sur Jésus, qui est la gloire du Père, puisque la gloire qu'il lui avait donnée, eh bien Jésus nous l'a aussi donnée. Donc nous sommes participants à la gloire de Dieu. Ensuite, Romains 8 au verset 30, il est dit, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, qu'est-ce que Dieu fait en fait dans notre vie ? Bien, premièrement, il nous prédestine. C'est-à-dire que je vous rappelle que quand Dieu nous a créés, il avait un but à l'esprit pour notre vie. Donc, il nous a prédestinés à quelque chose. Ensuite, il nous a appelés. Et si nous répondons à l'appel de venir et de marcher avec lui, il va nous justifier par l'œuvre de Christ. Mais ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Ça va plus loin. Et une fois qu'il nous a justifiés, maintenant aussi, il nous a glorifiés. Donc Dieu, non seulement nous a créés avant même que nous n'existions, non seulement nous a appelés pour nous amener au salut, non seulement nous a justifiés pour que nous soyons totalement purs et acceptables devant Dieu et puissions jouir de la vie éternelle, mais il nous a aussi glorifiés. Alors je ne sais pas pourquoi pendant des années on a oublié cette partie-là. Glorifier, ça veut dire qu'il y a la gloire en nous, sur nous, on est baigné, immergé dans la gloire de Dieu. Donc ne nous contentons pas d'être juste sauvés, d'être juste purifiés, d'être juste acceptables. Désirons toute la plénitude de ce que Dieu a fait pour nous, à savoir aussi la gloire de Dieu en nous, sur nous, à travers nous, autour de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Et 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. C'est-à-dire que quand on s'attache à Jésus, quand on le suit, on devient un seul avec lui. Ce qui veut dire que ce qui le caractérise, nous caractérise. Et je vous rappelle aussi que la Bible déclare que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc la gloire de Dieu, ça fait partie de nos caractéristiques, de nos attributs, de ce qui nous est disponible. Et le monde attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Et nous avons la clé, c'est la gloire de Dieu. Et comment amener la gloire de Dieu dans notre vie ? En adorant. Puisque le Père cherche des adorateurs. Et quand nous l'adorons, nous reflétons sa gloire et nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur. Donc je vous encourage vraiment à développer une habitude d'adoration. C'est vrai dans nos réunions, mais c'est vrai dans votre vie personnelle. Et à passer du temps dans sa présence pour que vous commenciez à être de plus en plus transformés, inondés de gloire en gloire. Et je peux vous assurer, parce que c'est la parole de Dieu, que demain il y a des gens qui vont dire « Waouh, mais t'as un reflet ! Waouh, mais qu'est-ce que tu as ? Tu es brillant !» Vous savez, il y a parfois où j'ai vécu des choses vraiment folles et j'ai dit merci Seigneur, c'est super, et j'aurais fait comme les disciples qui étaient avec Jésus à la transfiguration, j'aurais dit mais laisse-nous planter la tente et restons là, c'est très bien. Mais il y a des choses excellentes que Dieu a préparées pour nous. Et vous savez, Seigneur moi m'a dit que tu as juste soulevé un petit peu le coin. Mais maintenant l'heure est venue où il ne faut pas juste soulever le coin pour voir ce qui se passe, l'heure est venue où le voile se relève, où le voile est complètement ôté et où la gloire de Dieu est pleinement manifestée. Et je bénis Dieu et je peux vous assurer que c'est vrai parce que d'une part la parole de Dieu le dit, puisque je vous ai montré des versets sur ce que j'ai dit, et j'ai déjà eu des avant-goûts du reflet, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « mais toi tu es brillant ». Et l'écho sur la voix, c'est arrivé aussi. Et souvent, et je bénis Dieu pour ça, parce qu'il arrive que des gens disent, que ce soit même ici d'ailleurs, ou ailleurs, que les gens disent, mais c'est bizarre quand tu parles, c'est comme s'il y a des vagues qui passent sur nous, ou bien quand tu parles, ça pique, ça hante là. Mais c'est quoi? C'est qu'il y a un écho de la gloire de Dieu sur la voix de celui qui parle de la part de Dieu. C'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que passant du temps dans sa présence, parce que proclamant ses vérités, eh bien sa gloire vient couvrir ce que je dis et fait que ça a un effet. C'est pas juste une parole parmi d'autres, mais ça frappe là, ça rentre. Alléluia. Et au sujet de l'atmosphère aussi, et un jour j'ai bien rigolé, parce qu'on était dans une grande convention, quelque part en France à l'époque, et je crois qu'on avait des moments assez forts, et c'est vrai qu'à un moment, je passais à côté de quelqu'un, et la personne, il est tombé par terre comme ça, et il m'a dit, « Ouais, mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Moi, je lui avais rien fait. Et c'est là que j'ai compris l'histoire de l'ombre de Pierre. C'est pas une histoire de soleil, de machin. Il y a quelque chose qui sort. Et si vous recherchez, vous commencez à prier Dieu de vous instruire, de vous faire comprendre les vérités sur sa gloire, on est devant des choses extraordinaires. Moi, j'ai recommencé vraiment à fouiller parce que c'est intéressant. Et on est dans le temps où la gloire de Dieu doit être vraiment manifestée. Vraiment, complètement, pas juste un peu. La révélation des fils de Dieu. Quand moi je lis des passages dans l'écriture où même on voit que lorsque Dieu parlait, eh bien il y avait des bruits de tonnerre. Il est possible qu'on voit des tonnerres et des éclairs lorsque Dieu parle parce que sa gloire est établie. Et parce que quand la gloire de Dieu est établie, il y a aussi des signes visibles, des signes remarquables qui doivent servir de témoignage aux gens, plus que nos paroles. Je vous rappelle les apôtres qui disaient que notre témoignage n'a pas seulement reposé sur des discours, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ce qui est vrai dans le domaine de la foi, comme j'ai dit, on peut prier pour les gens peuvent être touchés. C'est vrai dans le domaine de l'onction, c'est-à-dire que l'action du Saint-Esprit, hein, je vous rappelle le séminaire qu'on a eu, où il y a un revêtement de puissance, tout ça, mais c'est vrai aussi en amenant la gloire de Dieu, et à tel point qu'il y a des choses qui vont se produire au milieu de nous. Et ça, c'est excellent, et c'est pour nous. Donc, soyons ceux et celles par qui la révélation des fils de Dieu va commencer ici au Gosier, ici en Guadeloupe, et dans toutes les nations. Alléluia. Vous êtes candidats pour ça? Amen. Amen.